des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Nous terminons cette semaine notre série d'émissions sur la peur, série que vous pouvez retrouver dans son intégralité maintenant sur notre site internet, rubrique des mots pour le dire. Et comme thème de cette ultime émission, nous allons aborder la peur et l'irrésistible besoin de croire. Alors, pourquoi ne pas débuter cette émission avec un document sonore exceptionnel, document exhumé dans les archives de la BNF et mis en avant ces jours-ci sur le site de France Culture. C'est la voix de Léon Tolstoï, enregistrée en 1910, un an avant sa mort. Et de quoi nous parle l'auteur de Guerre et Paix ? Eh bien, de croyance, justement. Oh, comme cela tombe divinement bien. Écoutons-le.
La vision n'est pas une croyance établie une fois pour toutes, une croyance au phénomène surnaturel qui soi-disant se produisit autrefois, ni la croyance à la nécessité de certaines prières et de certains rites. Elle n'est pas non plus, comme le pensent les savants, le reste des superstitions et de l'ignorance antique, qu'il n'est dans notre temps d'aucune nécessité d'adapter dans la vie. La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu. Rapport établi en accord avec la raison et la science contemporaine et qui seul pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est assigné. L'âme humaine, c'est la lampe de Dieu, dit une sage expression hébraïque. L'homme est un animal faible, misérable, tant que dans son âme ne brûle pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, et ne s'enflamme que dans l'âme éclairée par la vision, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Et il n'en peut être autrement, parce qu'alors ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu. Voilà ce qu'est la vision et en quoi consiste son essence.
La religion n'est pas une croyance établie une fois pour toutes, une croyance aux phénomènes surnaturels qui soi-disant se produisirent autrefois, ni la croyance à la nécessité de certaines prières et de certains rites. Elle n'est pas non plus, comme le pensent les savants, le reste des superstitions et de l'ignorance antique qu'il n'est dans notre temps d'aucune nécessité d'adapter dans la vie. C'était bien la voix de Léon Tolstoï, document tiré des archives de la BNF et qui est disponible sur le site de France Culture. Docteur Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
On met la barre très haut pour démarrer cette émission. Alors, la définition de la croyance par Léon Tolstoï, est-ce que ça vous parle ?
En tout cas, ce que ça m'évoque, parce que ce texte était à la fois dense et je trouve en plus pas très très facile à entendre et à comprendre, c'est que il n'y a pas de vie sociale sans ordre symbolique et il n'y a pas d'ordre symbolique sans croyance. Au fond, les croyances, ce sont des choses auxquelles on adhère avec une sorte d'acte de foi. On ne croit finalement qu'en des choses qui sont incroyables. On ne croit pas que le lendemain, demain matin en tout cas, on ne croit pas que demain matin le soleil va se lever. On le sait, c'est un savoir, ce n'est pas une croyance. La croyance est une perspective de mise en sens et de mise en perspective. Voilà. Alors, donc, il me semble bien que c'est important de se dire, il n'y a pas de vie, en tout cas, en particulier de vie sociale ou de vie relationnelle, sans un espace symbolique et donc sans croyance. Voilà. On croit toujours qu'on soit, que nous-mêmes nous savons et que les autres croient. Mais on est autant rempli de croyances que de savoir, et probablement d'ailleurs beaucoup plus de croyances que de savoir.
Revenons au sujet de notre émission, la peur et la croyance. Vous dites qu'il est possible de ne plus avoir peur. Je ne dis pas que c'est facile, mais que c'est possible. Et justement, grâce aux croyances, et à commencer par des croyances qui ne sont pas nécessairement religieuses, mais plus d'ordre philosophique.
Je ne sais pas s'il est possible de ne plus avoir peur. Du côté d'une certaine peur par rapport à certains objets ou par rapport à certaines situations, il me semble en effet que dans la vie, en grandissant et en mûrissant, on apprend à avoir en tout cas moins peur. Il y a des circonstances dans lesquelles aussi cet espace d'anxiété à l'intérieur de nous-mêmes a pris beaucoup de place et au fur et à mesure de nos apprentissages, de nos réassurances intérieures surtout, on apprend à dépasser cette anxiété. Il reste toujours une sorte d'angoisse de fond qui finalement est une angoisse par rapport au sens même de la vie, donc une angoisse par rapport à la mort. Il me semble que justement là, par rapport à la mort, et j'espère que là, peut-être ça répond un petit peu à votre question ou à votre questionnement en tout cas, les seules réponses qui vaillent relèvent de croyances. Elles ne relèvent pas en tout cas d'un savoir qui serait absolument certain et qui pourrait nous débarrasser définitivement de nos peurs. Ça, non, ce n'est pas possible. Il n'y a que des croyances. On pourrait dire que les croyances sont là pour donner des éléments de réponse à cette angoisse existentielle qui rentre dans cet grand espace des peurs.
Et cette question, docteur Dominique Desmichel, cette question, les philosophes depuis l'Antiquité, puis plus tard les théologiens, mais commençons par les philosophes de l'Antiquité, se la posent et réfléchissent justement pour combattre cette peur première qui est celle de la mort.
Oui, tout à fait. Je crois que, en effet, j'ai moi personnellement tendance à penser que la philosophie est la forme laïque au fond de la religion, hein, ou que elle s'est organisée en tout cas comme la religion pour tenter de proposer des croyances, de proposer un système d'organisation, de perception et de mise en perspective du monde. Et c'est vrai que, en tout cas chez les philosophes antiques, présocratiques, mais même dans la période de la grande philosophie grecque, qui d'ailleurs a duré pas tellement longtemps finalement, alors il s'agissait de mettre les choses en perspective, de trouver ce que c'était qu'une vie bonne, d'avoir quelque chose qui était harmonieux. Et l'objectif de ça, c'est de se dire que lorsqu'on a une vie qui est bonne, pour reprendre l'expression des philosophes, alors la peur s'envole. On pourrait dire d'ailleurs que dans les religions, qu'elles soient d'ailleurs de type chrétienne, ou qu'elles soient de type occidental, ou qu'elles soient dans toute une tradition orientale autour, mettons, de l'hindouisme et du bouddhisme, il y a cette figure du sage. Et que le sage serait, au fond, celui qui pourrait contenir l'angoisse existentielle, c'est-à-dire la peur de la mort, alors même que la mort resterait une énigme, c'est-à-dire dans sa foi intérieure, dans l'adhésion et dans l'intériorisation de sa croyance intérieure, alors il n'aurait plus peur. D'où, il me semble, à notre époque qui est quand même très très secouée par cette crise sanitaire, cette crise économique, cette crise climatique au niveau planétaire, une recherche de philosophie, une recherche de sens, à la fois dans une sorte j'allais dire, de mise en scène d'une qualité de l'instant, un carpe diem. Nietzsche, il appelait ça amor fati, c'est-à-dire aime le destin qui t'arrive, et puis tu seras heureux. Mais aussi dans une espèce de perspective. Donc là, on est dans une approche synchronique du côté de l'instant, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, au moment où nous enregistrons, il y a un très beau ciel bleu dehors, on va profiter de cet instant et puis en faire une sorte de croyance en disant que une vie, peut-être, elle peut être à l'image de ce ciel bleu ensoleillé, même si c'est l'automne. Et puis, dans une perspective sur le plus long terme, donc diachronique, le long d'une vie, voilà, où se tenir vivant et arriver à trouver une vie juste, ce serait au fond avoir intériorisé son propre passé, vivre de manière juste son présent, dans une tension souvent difficile et assez souvent d'ailleurs douloureuse, cueillir l'instant et avoir une perspective du côté du futur.
Docteur Dominique Demichel, il me semble effectivement que cette histoire d'accepter son destin, qui nous vient de la plus profonde antiquité, et puis, me semble-t-il, traverse un grand nombre de croyances, que ta volonté soit faite, disent les juifs et les chrétiens, et puis évidemment, dans toutes les grandes religions monothéistes, il y a cette idée de destin qui ne nous appartient pas. Qui appartient à Dieu ou bien dans l'Antiquité qui appartient au Dieu au pluriel. Est-ce que cette acceptation du destin, c'est justement ce qui nous manque aujourd'hui dans notre époque où on a placé très très haut la barre de la soi-disant liberté de pensée, liberté, autonomie de mouvement et puis on a mis la liberté très haut
Je reviendrai un tout petit peu en arrière en redisant que la connaissance et la croyance s'opposent. Par la connaissance, on prouve quelque chose. Certes, il est plus facile de prouver que quelque chose existe. Il y a un cheval là, qui est dans la prairie d'à côté, la terre tourne autour du soleil, plutôt que de prouver que quelque chose n'existe pas. Les licornes appartiennent à un imaginaire, elles n'ont jamais existé. La croyance, elle ne repose pas sur des preuves. Elle repose sur une adhésion personnelle et elle est là pour donner une perspective. Il me semble que, en tout cas, un des grands drames de notre monde contemporain, c'est comment je dirais ça ? C'est le recentrage sur l'instant et sur le plaisir, ça au détriment du bonheur. Or, le bonheur, il y a cette phrase de Camus, je vais la citer un peu de tête, mais qu'est-ce que le bonheur ? Je ne suis pas sûr de la dire exactement. Qu'est-ce que le bonheur si ce n'est l'adéquation d'un homme avec la vie qu'il mène ? Et vous voyez, il me semble que là, il y a vraiment cette dimension sur le long cours. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse se débarrasser complètement de l'angoisse, mais en tout cas, dans notre monde contemporain, ce manque de perspective sur le long cours, c'est-à-dire au fond cette interrogation de l'existence, c'est-à-dire au fond autour de la question de la transcendance, elle est probablement une des grandes ombres qui pèse très très lourdement sur la vie, il me semble, de nos contemporains.
Alors, on a défini dans plusieurs fois dans nos émissions la différence qu'il y avait entre la peur et l'angoisse. On va y revenir parce que on ne lutte pas avec les mêmes armes contre la peur ou contre l'angoisse.
Non, tout à fait. La peur est toujours par rapport à un objet. Et s'il est tout à fait indispensable d'avoir peur dans la vie, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se méfier des choses dangereuses, elles existent, voilà. L'enfant, il va approcher sa main du four ou il va approcher sa main du feu, et puis la première fois, il va avoir très chaud, voire se brûler un tout petit peu, et puis ensuite, il va engranger ça dans son cerveau au niveau de l'amygdale, et cette peur va lui permettre d'être prudent. Donc cette peur, elle est tout à fait importante. L'anxiété, on l'a vu, elle est du côté de l'imaginaire qui se déploie. Et comme on le disait au tout début de cette émission, l'apprentissage de l'existence nous fait pouvoir arriver à tenir un petit peu mieux cette peur associée à cet imaginaire. Voilà, on voit d'ailleurs là la tension à l'intérieur de nous-mêmes entre la raison et la passion. L'imaginaire est quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est le bouillon de culture de nous-mêmes, c'est ce qui nous permet le plus souvent d'être très créatif, mais en même temps, elle peut être, comme on disait autrefois en la dévalorisant, un peu la folle du logis. Et donc là, par rapport à ça, en effet, on apprend un tout petit peu, on peut espérer un peu beaucoup, en tout cas au fil de l'existence, à contenir cette anxiété.
Et la croyance et le fait de croire est justement ce qui va nous permettre de lutter du coup contre cette angoisse.
Moi, en tout cas, je ne conçois pas une société sans religion, sans croyance commune. Ces croyances qui, au fond, pourraient relier les psychismes, relier les âmes. Peut-être on pourrait dire d'ailleurs en les rattachant à l'infini et peut-être au fond dans un infini qui nous précède, d'où nous procédons peut-être et où elles vont au fond, il me semble. Donc, je crois que... alors, on pourrait rapprocher ça, par exemple, de la valeur de la laïcité. Je crois qu'il ne faut pas demander à la laïcité de nous fournir la part d'irrationnel et d'imaginaire qui est souvent exigée, en particulier par l'émotion religieuse, et peut-être même, au fond, d'ailleurs, par toute fraternité. Elle n'est pas là pour la mystique, ni même pour la croyance. Il y a là quelque chose dans la croyance qui, d'abord et avant tout, est fait pour... Je ne dirais pas pour combattre la peur, mais pour donner un système d'explication au monde.
Oui, la croyance est quelque chose d'extrêmement précis dans la croyance entre des dogmes, entre des lois, entre une morale également.
Je ne sais pas si je sentirais les choses comme ça. Pour moi, le dogme a prétention, en tout cas, à être du côté du savoir, c'est-à-dire pas du côté d'une croyance, hein, il me semble. L'articulation avec la morale que vous évoquez ne me semble pas non plus évidente. Bien évidemment, nos croyances vont déterminer une partie de nos comportements, une grande partie de nos comportements. Je ne suis pas sûr que ça détermine particulièrement un comportement de type moral. Vous voyez, je pense que tout le monde a ses croyances. Et je ne suis pas sûr de très bien percevoir au fond l'articulation pour l'instant, il faudrait que j'y réfléchisse, entre la croyance et la morale. Bien évidemment, nos croyances déterminent nos comportements. Si on a, on pourrait dire par exemple que celui qui ne croit en rien pourrait être un petit peu nihiliste. Et en étant nihiliste, par exemple, eh bien, il pourrait être une sorte de jouisseur épicurien dans le mauvais sens du terme. Les épicuriens ne sont pas des jouisseurs sur le plan philosophique, mais dans le sens qu'on en a fait. Alors peut-être, en le fond, sa croyance, là, ici, l'amènerait à être juste un jouisseur de l'instant et à récuser toute transcendance, par exemple. Mais celui qui croit en rien, il croit déjà en quelque chose dans le fait de ne croire en rien. Hein? Voilà. Donc, il me semble que là, on pourrait dire, c'est plutôt au fond son histoire qui a pu déterminer quelque chose de sa croyance. Hein? Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Si, tout à fait. Alors, moi, mon problème, docteur Dominique Michel, c'est que je veux bien croire, effectivement, pour justement peut-être échapper à l'angoisse. Mais comment je fais pour croire? Est-ce qu'on peut s'obliger à croire?
Non. Moi, je ne crois pas du tout à ça. On peut... La croyance, d'abord, c'est quelque chose qui nous vient à l'intérieur de nous-mêmes. Ces croyances sont le fruit de notre histoire, de notre éducation, de nos rencontres, de nos blessures comme de nos joies, de notre expérience au fond de la vie qui nous a, toutes ces choses-là, nous ont amené au fond à nous interroger sur le sens. Moi, personnellement, si je m'interroge et que je me dis « est-ce que je crois en Dieu ?», eh bien, j'aurai envie de répondre je n'en sais rien, parce que il faudrait, avant que je puisse répondre à la question, savoir ce qu'on met sous le terme de Dieu. Si je me pose la question, est-ce que je crois que la vie a du sens? Alors là, je réponds, oui, pour moi, la vie a du sens. Et évidemment, je ne peux prouver rien du tout, puisque ça relève uniquement de ma croyance. Et je sais que, pour reprendre, il me semble, l'articulation que vous faisiez tout à l'heure avec la morale, il me semble que c'est cette croyance dans le fait que la vie a du sens qui détermine mon existence, à la fois parce que ça a déterminé probablement une partie de ma vocation de médecin et de psychanalyste, mais aussi parce que très souvent, j'allais dire probablement tous les jours, je me pose la question de savoir ce que je vais choisir entre tel acte ou tel autre. Et c'est à partir de cette croyance que la vie a du sens ou que la relation a plus d'importance que la consommation, par exemple, ou que l'être, c'est plus important que l'avoir, ou que le bonheur est plus important que le plaisir, par exemple. Vous voyez, c'est à partir de toutes ces croyances que je vais déterminer mes actions. Donc du coup, je ne sais pas si ça éclaire un petit peu plus votre question. Oui, nos croyances sont très très importantes parce qu'elles déterminent nos choix d'existence, mais on ne peut pas croire en quelque chose qui viendrait d'ailleurs que de notre propre expérience. Hein. Vous voyez, je ne pense pas qu'on puisse dire... voilà. Pour moi, en tout cas, ça m'a toujours interrogé les gens qui disaient « je croyais en Dieu, mais dites-moi donc ce qu'est votre Dieu ». Alors, si on se dit par exemple « j'écoute la tradition de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament », Je crois profondément qu'il y a une mise en perspective de l'existence, une mise en perspective de sens. Alors là, j'ai envie de dire, oui, ok, là, je participe à cette lecture, à ce regard, à cette religion, on pourrait dire, c'est-à-dire je relis du verbe relire et je relis du verbe relier. Voilà, il me semble, c'est ça. Mais je ne crois pas qu'on puisse avoir une vraie croyance dans quelque chose qui nous serait proposé et encore plus imposé par quelque chose. Là, il va y avoir une croyance, mais ça va être une croyance adhésion qui est du genre copier-coller et qui n'est pas quelque chose qui est ou intériorisé ou qui jaillit de l'expérience dans un processus, voilà, dans quelque chose qui est dynamique. La croyance est toujours, il me semble, mouvante, elle se heurte au démenti de la vie, elle s'enrichit dans les moments où, au contraire, on a le sentiment que, bah oui, c'est juste que l'on croit en telle ou telle chose. Voilà. Moi, je dirais personnellement que, pour moi, croire que la vie a du sens et ajuster, en tout cas, mon comportement à cette croyance, c'est quelque chose de tout à fait déterminant. Ça m'empêche pas d'être médiocre, nul, stupide, inconscient, de temps en temps tout à fait sincère, mais pas du tout lucide. Vous voyez, hein, parce qu'on a tous nos tâches aveugles. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse croire à un corpus qui serait à l'extérieur de nous-mêmes et on nous demanderait en bas de signer notre nom ou notre prénom.
Docteur Dominique Desmichel, il y a un élément fondamental à l'intérieur de toute croyance, à l'intérieur de toute personne qui croit, c'est le doute.
Oui, je crois que c'est Nietzsche qui disait ça, alors je ne vais plus me retrouver son... Mais oui, pour moi, le doute, c'est la mise à l'épreuve de nos croyances. Les croyances sont sans doute, pour moi, elles ne sont pas valables. On peut être tout à fait sincère, mais il me semble qu'on n'est pas lucide parce que la croyance, à partir du moment où elle a un acte de foi intérieur, elle doit être toujours remise en question. Donc le doute, pour moi, c'est une déontologie de l'esprit, une déontologie de la croyance, c'est une éthique de l'adhésion à ses propres engagements, à ses propres valeurs ou à sa propre croyance, je dirais. Oui.
Alors, comment fait-on justement pour se situer et puis plutôt quels sont les mécanismes qui jouent en nous quand on se trouve au centre d'une situation où d'un côté, il y a effectivement l'insupportable départ d'un proche, par exemple, et puis de l'autre, l'image du créateur qui nous invite à l'immortalité. On est au centre de ce dilemme presque.
Vous voyez, pour la première partie, c'est-à-dire que nous vivons la mort de nos proches douloureusement, ou que nous vivons la souffrance du monde comme étant difficile, hein, et vraiment, si on essayait de faire la sommation de toutes les souffrances des humains depuis 2 millions d'années, on obtiendrait quelque chose qui serait extraordinairement énorme, absolument énorme. Hein. Donc il y a ça d'un côté. Est-ce que Dieu nous promet l'immortalité ? Très honnêtement, cette phrase, pour moi, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas parce que je ne peux pas me représenter l'immortalité. Je préfère, moi, répondre « la vie a du sens ». Mais l'immortalité, je ne sais pas ce que c'est. Vous connaissez par cœur cette petite phrase de Woody Allen, je crois, l'immortalité, c'est long, surtout vers la fin. Et il me semble que... on ne peut pas imaginer un acte d'engagement à partir de ses propres croyances si on n'a pas le choix entre faire quelque chose qui a du sens et qui fait de la vie, par exemple, et faire quelque chose qui n'a pas de sens et qui fait de la mort. Donc, quand Dieu me propose l'immortalité, moi, je veux bien écouter cette parole-là, mais comme pour moi, ça n'a pas de contenu, eh bien, ça ne me parle pas. Si par contre, dans le message en particulier christique, il y a l'idée que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort, là je dis oui, ça j'y crois. Et évidemment, j'y crois que du côté d'une croyance, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'a aucune validité scientifique, qui n'est pas du côté de la connaissance, mais qui est du côté de la croyance. Oui, ça j'y crois. Et j'y crois de manière totalement irrationnelle. On n'est pas du domaine de la raison. On est du domaine de la croyance. Donc, je crois que la vie a du sens. J'aurais tendance à penser que la vie ne s'arrête pas, la vie humaine, c'est-à-dire la vôtre, Simon, la mienne à moi, ne s'arrête pas au moment où nous allons mourir. Mais ce qui va se passer après, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si ce qui va se passer après a du sens. Je ne sais pas. Peut-être que ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il y a une existence après qui se déroule dans un monde dans lequel le temps se déroule tout à fait autrement, dans lequel peut-être il n'y a pas de temps, mais je ne vois pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de temps. Et vous voyez, donc il me semble que la croyance est quelque chose de tout à fait essentiel, mais les discours de croyance, en particulier ceux que proposent les religions, sont une sorte de catalogues qui sont peut-être faits pour tenter de calmer les angoisses de tout le monde, mais pour revenir à votre introduction, mais qui ne permettent absolument pas de faire l'économie du doute. Le doute, je le redis, pour moi, c'est la déontologie de la croyance. Vous voyez, c'est l'éthique de la croyance.
Docteur Dominique Desmichel, écoutez, un grand merci. C'est ainsi que nous allons conclure toute notre série d'émissions sur la peur. Mais nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Encore merci et à très bientôt.
Merci à vous aussi, Simon, et au revoir, à bientôt à tous.